VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Ouagadougou, 14h à Libreville, bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité ici aux États-Unis. Les élus de l'opposition démocrate majoritaire à la Chambre des représentants du Congrès à Washington ont retenu mardi deux chefs d'inculpation dans la procédure pour la mise en accusation du président Donald Trump, à savoir abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès. Les détails avec Idriss Fall.
Jerry Nadler, le leader démocrate de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a annoncé deux chefs d'accusation.
Today, in service to our duty to the Constitution and to our country,
aujourd'hui, au nom de la Constitution et de notre pays, la commission judiciaire de la Chambre introduit deux articles de mise en accusation contre le président des États-Unis, Donald Trump, pour crimes et délits majeurs. Le premier est abus de pouvoir. Le second entrave à la bonne marche du Congrès.
Adam Schiff, chef de la commission du renseignement qui a mené plus de deux mois l'enquête sur l'affaire ukrainienne, a ajouté:
nous sommes ici aujourd'hui car l'abus par le président de ses pouvoirs ne nous a laissé aucune autre alternative.
Les républicains rejettent en bloc toutes ces accusations. Doug Collins est numéro 2. De la commission judiciaire.
Nous n'avons pas de crime, nous n'avons rien que nous puissions réellement identifier et personne ne comprend vraiment ce que la majorité essaie de faire.
Depuis le début, le président Donald Trump martèle qu'il n'a rien fait de mal et dénonce une mascarade montée de toutes pièces par les démocrates.
C'est une honte pour notre pays. C'est un canular et cela ne devrait plus jamais se reproduire.
Les deux chefs d'accusation seront adoptés en séance plénière, sans doute la semaine prochaine, à la Chambre des représentants où les démocrates sont majoritaires. Une simple majorité suffira pour que Donald Trump devienne le troisième président de l'histoire américaine à être mis en accusation au Congrès. Avant lui, seuls les présidents Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1998 ont été officiellement mis en accusation. Le président républicain Richard Nixon avait démissionné avant le vote en 1974. Comme eux, Donald Trump devrait survivre pour que la destitution puisse passer. Il faudra le vote des deux tiers des sénateurs. Donald Trump sera donc probablement acquitté puisque le Sénat est contrôlé par les républicains qui font bloc autour de lui avant les élections de novembre 2020.
Afrique maintenant, le combat contre les djihadistes dans le Sahel. Les États-Unis vont donner au Niger des équipements militaires et 60 véhicules blindés d'un coût total de 21 millions de dollars pour aider à la lutte contre les groupes djihadistes. 13 véhicules blindés Mamba, 86 systèmes radio et 4 conteneurs blindés ont déjà été remis au ministère nigérien de la Défense, selon Eric Whitaker, l'ambassadeur des États-Unis à Miami. Les 47 autres véhicules blindés tactiques et des équipements de protection individuelle vont bientôt suivre. Ces équipements sont destinés aux militaires nigériens engagés dans les opérations de la force du G5 Sahel, précise l'ambassade américaine. Et au Niger, des hommes armés ont attaqué mardi soir une position de l'armée nigérienne dans la zone d'Inates dans l'ouest du pays, près de la frontière du Mali. Selon une source sécuritaire, les assaillants venus par dizaines et par petits groupes à moto ont attaqué le camp. Ils ont encerclé. L'attaque a été repoussée et des renforts ont été envoyés sur place. Ces combats auraient maintenant repris. L'attaque de mardi était la deuxième en deux jours contre les positions de l'armée nigérienne. Lundi, 3 militaires nigériens et 14 djihadistes ont été tués dans une attaque contre un camp de l'armée dans la région de Tarwa, voisine de celle de Tillaberi et également proche du Mali. C'est ce qu'avait indiqué le ministère nigérien de la Défense. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, en Somalie, 5 personnes tuées, 3 civils et 2 membres des forces de sécurité, dans l'attaque perpétrée mardi soir par un commando des islamistes radicaux Shebab, affilié à Al-Qaïda, contre un hôtel du centre de Mogadiscio, la capitale. Tel est le bilan donné mercredi par la police somalienne. Après plusieurs heures de siège, les forces de sécurité sont parvenues à neutraliser les deux derniers membres des Chebab retranchés à l'intérieur de l'hôtel SIL, régulièrement fréquenté par des dignitaires et déjà pris pour cible par les Chebab. L'hôtel SIL est situé à proximité de l'enceinte ultra-sécurisée de la villa Somalia. Un complexe fortifié abrite la présidence somalienne et les bureaux du Premier ministre. C'est la quatrième fois depuis 2015 que cet hôtel est visé par une attaque des Chebab.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Guinée, poursuite du mouvement de contestation, les Guinéens ont à nouveau manifesté hier à Conakry, la capitale et aussi en province, contre un éventuel troisième mandat pour le président Alpha Condé. Les détails avec Irénée Herman Ungbo.
Un responsable de l'opposition a chiffré à 1 million le nombre de personnes ayant marché à Conakry. Il y a eu aussi des mobilisations de milliers de personnes dans plusieurs autres villes, à Mamou, à Dalaba et à Labé. Aucun incident n'a été rapporté, mais les manifs ont été brutalement réprimés à plusieurs reprises. Au moins 20 civils et un gendarme ont été tués. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Nos pensées vont vers nos morts, a déclaré à Conakry Abdourahmane Sano, coordinateur national du FNDC, lui-même sorti récemment de prison en attendant une décision en appel après avoir été condamné à la prison ferme en première instance. Le Front National de Défense de la Constitution organise depuis le 14 octobre des manifestations contre l'ambition prêtée à Alpha Condé de modifier la loi fondamentale pour briguer un troisième mandat l'an prochain. M. Condé, 81 ans, a été élu en 2010 et réélu en 2015. Il entretient le flou sur ses intentions, mais a lancé en septembre des consultations sur une éventuelle révision de la Constitution.
Contestation en Algérie. Plusieurs milliers de personnes protestent ce mercredi dans le centre d'Alger à moins de 24 heures du scrutin présidentiel. Ils s'élèvent et ils crient leur mécontentement face à cette présidentielle qui est massivement rejetée par la population. La police qui quadrille le centre de la capitale algérienne tente de repousser parfois à coups de matraque les manifestants rassemblés près de la Grande Poste, lieu traditionnel de rencontre au cœur d'Alger du mouvement populaire de contestation du régime en cours depuis le 22 février. Les policiers ont sommé les manifestants de se disperser et ont procédé à une dizaine d'arrestations, mais les protestataires refusent de quitter la rue. Makach, pas de vote, scandent notamment les manifestants en brandissant des cartons rouges en signe de refus de la tenue de la présidentielle prévue jeudi pour élire un successeur à l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, contré en avril à la démission par la contestation en cours. En France, plusieurs centaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté hier contre une réforme des retraites à travers le pays où la grève se poursuit, notamment dans les transports. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le gouvernement, ils étaient près de 340 000 à manifester, alors que le syndicat CGT parle de près de 900 000. Des chiffres qui sont difficilement vérifiables. Les cortèges étaient moins fournis que lors de la première journée de mobilisation le 5 décembre. Le mécontentement reste haut, a fait valoir le numéro 1 de la CGT, Philippe Martinez. On est aujourd'hui contre ce projet de réforme des retraites. On le trouve injuste, inqualifiable. C'est un danger pour le modèle social français, a déclaré Edgar, un employé de la régie des transports parisiens. Les manifestants veulent amener le gouvernement à renoncer à mettre en place un système universel de retraite par points censé remplacer les 42 régimes existants. Le Premier ministre Édouard Philippe prononce son discours ce mercredi, mais on ne s'attend pas à ce que le gouvernement fasse marche arrière sur cette réforme, qui est une promesse de campagne du président Emmanuel Macron.
Et pour terminer, dossier des Rohingyas de Birmanie à la CIJ, la Cour internationale de justice, l'armée birmane a peut-être fait usage d'une force disproportionnée lors des exactions contre la minorité musulmane Rohingya, mais jamais avec une intention génocidaire. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi l'ancienne icône de la démocratie Aung San Suu Kyi devant la Cour internationale de justice. La Gambie, mandatée par les 57 États membres de l'Organisation de la coopération islamique, estime que la Birmanie a violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Merci de votre attention. Restez à l'écoute de VOA Afrique.